Le rêve européen, écrit mon invité, a besoin de désir. Il mourra s'il n'est plus qu'une liste sèche de législations, de normes et d'échanges commerciaux. Le rêve européen a besoin d'un sentiment d'appartenance. Il a des habitants, mais il est grand temps qu'il ait des citoyens. Pour ce faire, j'en suis convaincu, il a besoin d'un récit. Construire le rêve européen, voilà un enjeu d'écriture pour ceux de ma génération. Il est temps de commencer à raconter notre propre histoire, non pas du point de vue de la France en Europe ou de l'Allemagne en Europe, mais en embrassant sans cesse du regard le territoire européen dans toute sa grandeur. Je voudrais un long poème qui démarrerait peut-être avec les guerres de religion ou durant la première vague de colonisation ou dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, qui sait, mais qui ne cesserait de parler aussi de ce que nous traversons aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire un poème historique, mais de dire le chant des convulsions, des heures sombres et des trouées de lumière. Si souvent, l'Europe n'a été qu'un territoire de compétition entre les nations, si souvent le lieu de guerre, de conflit, si souvent champ de bataille et champ de ruines. Aujourd'hui, nous héritons de cette construction européenne et il est peut-être temps de se souvenir qu'elle porte en elle, depuis le premier jour, une part belle d'utopie. Au fond, ce pourrait être cela le sens du projet, écrire un long poème pour dire ce que nous voulons être. Laurent Godet.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, à quoi rêve mon invité d'aujourd'hui, romancier, poète, dramaturge, lauréat du prix Goncourt. Vous vous souvenez, il y a 18 ans, pour Le Soleil d'Escorta, de son écriture ardente, il n'a de cesse de nous parler du présent. Son texte « Nous, l'Europe, banquet des peuples », mis en scène et en musique par Roland Auzet, se joue actuellement au Théâtre de l'Atelier. C'est un spectacle foisonnant et polyglotte sur un continent et une utopie, on l'a entendu, qu'il est possible de réinventer. Bonjour Laurent Godet.
Bonjour Augustin.
Merci d'être avec nous.
Merci à
ce
vous.
Matin, au fond, de quelle Europe est-ce que vous rêvez ?
D'une Europe joyeuse, d'une Europe fière d'être européenne, et puis d'une Europe qui prend en charge tout le monde, c'est-à-dire d'une Europe sociale aussi.
C'est donc pas dans cette Europe que vous avez le sentiment de vivre aujourd'hui ?
J'ai le sentiment que il faut opérer un certain nombre de virages, et ça c'est la vie politique, c'est la vie de, citoyenne, et voilà, c'est un combat ou des combats à mener, mais pour autant j'ai l'impression que il faut pas non plus détruire ce legs qui nous vient d'une génération qui a été assez impressionnante en fait, c'est-à-dire les gens qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale et qui sont mis à une table juste après avec les ennemis d'hier. Moi j'ai une admiration sans fin pour leurs gestes, et cette chose-là voilà, va nous traverser. Il faut qu'on en prenne soin quand même, malgré les virages qu'on a envie de faire, je veux dire.
En quoi, Laurent Godet, la guerre en Ukraine, qui est au cœur du spectacle, hein, ce qui le rend extrêmement actuel, invite-t-elle à s'interroger sur l'Europe que nous désirons construire ?
Ben, malheureusement, j'ai l'impression, je ne suis pas le seul à le dire, que ce sont les crises qui nous font prendre conscience d'un certain nombre de choses. Ce « nous » européen devient plus fort à chaque crise, en fait.
Oui, mais alors quel regard est-ce que vous portez sur la manière dont l'Europe se positionne justement par rapport à cette guerre, Laurent ? C'est une interrogation que la comédienne ukrainienne qui est sur scène pose, mais pas seulement elle d'ailleurs.
C'est compliqué de parler de l'Ukraine parce qu'évidemment face à la barbarie de l'invasion russe, on a tous envie d'être dans une empathie immédiate et je le suis profondément. Après, sur la question de l'Union européenne, il faut respecter une certaine lenteur qui est évidemment insupportable en ce moment face au bombardement, mais qui est notre manière d'être à nous, Européens. Pour répondre à votre question, je pense beaucoup à la comparaison avec la guerre en ex-Yougoslavie, que moi j'ai connue jeune homme, et je trouve que de ce point de vue-là, l'Europe répond mieux aujourd'hui à la guerre, à ses frontières. Au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, il y avait beaucoup de dissensions européennes, en fait. On n'était pas du tout d'accord. Les Allemands et les Français n'avaient pas la même sensibilité vis-à-vis de ces pays-là. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un bloc plus fort. Alors évidemment, ça va trop lentement. Évidemment, on aimerait que ça aille plus vite. Évidemment, on aimerait des tas de choses. Mais quand même, j'ai l'impression que l'Europe répond mieux à cette crise-là.
Nous, l'Europe, banquet des peuples, c'est un poème donc que vous avez écrit il y a 3 ans, mais c'est un poème vivant. Puisque vous et le metteur en scène Roland Auzet ne cessez de le mettre à jour, en fait. Comment ça se passe, ça ?
Ça, c'est Roland qui m'embête à chaque fois. Moi, j'avais l'impression d'avoir terminé mon travail.
Ah non.
Et à chaque fois, il me dit, mais si, Laurent, on peut pas jouer sans parler de la pandémie, les spectateurs qui vont venir nous voir, ils sortent d'un an et demi de confinement, il faut qu'on en parle sur scène. Alors j'ai dit oui, et puis il y a eu quelques représentations où j'avais mis comme ça un monologue sur la pandémie, sur les masques, sur tout ça. Et puis plus récemment, il m'a rappelé en me disant mais attends, avec l'Ukraine, il faut qu'on en parle. Moi, je vais inviter une comédienne ukrainienne dans le spectacle. Et donc on a réfléchi, et c'est vrai que là, pour les représentations parisiennes au théâtre de l'Atelier, c'est effectivement, on a mis en avant cet aspect-là, l'Ukraine, pour que le spectacle soit toujours en résonance avec aujourd'hui, en fait, pour que les spectateurs ressortent du spectacle avec à la fois cette longue traversée historique où j'essaie de revenir sur un certain nombre de choses, et puis aussi la vibration avec le présent.
J'ai l'impression que votre metteur en scène, il vous pose aussi une question sur le théâtre par rapport à la poésie. Il vous dit sa conception du théâtre, qui ne fait pas qu'interroger le présent, face au fracas du monde, se peut-il que le théâtre apporte des réponses aussi?
En tout cas, c'est clair que, et ça j'y crois profondément, le théâtre, c'est, dans son ADN profond, c'est d'être une tribune et un plateau politique. Oui. Politique au sens où il y a des gens en face de nous et on s'adresse à eux, et donc on est d'emblée dans le dispositif, pas très loin de la cité, quoi. Et ça, c'est vraiment c'est assez joyeux de pouvoir l'utiliser pleinement, et ce spectacle-là particulièrement, c'est son territoire, c'est-à-dire qu'on est dans le récit, la politique, les questions. Moi, j'espère que c'est vraiment pas l'idée de faire un spectacle propagande. Je suis pas là pour brandir le drapeau européen en permanence. On a tous nos colères, nos réticences. Moi, j'ai des frustrations européennes. J'ai envie qu'on en parle. Et c'est pour ça qu'on avait envie d'ailleurs que le spectacle commence d'emblée pour mettre tout le monde à l'aise. On commence sur le référendum, sur cette espèce de chose qui s'est assez mal passée pour beaucoup de monde. Et voilà, comme ça, c'est une manière claire de dire, on n'est pas tous d'accord sur cette question-là, mais simplement, le spectacle va essayer de déployer toutes les questions.
Et en dialogue, surtout. Moi, ce qui est intéressant, quand même, c'est que lors de la représentation à laquelle j'ai assisté samedi soir, il y a eu l'intervention d'un homme de théâtre ukrainien qui s'appelle Vladislav Troïtski, qui est réfugié en France, et il a dit quelque chose qui m'a frappé. Le théâtre nous ment. Comment vous l'entendez, cette phrase ?
L'art en général nous ment, parce que c'est une construction, parce que il y a un jeu. Moi, je pense qu'il y a un jeu sur la temporalité, c'est-à-dire qu'il y a une soi-disant immédiateté des choses. On a l'impression que les comédiens sont là devant nous et font pour la première fois quelque chose qu'en fait ils ont répété mille fois, que tout a été pensé, construit, réfléchi. Donc c'est ce jeu-là il y a une illusion théâtrale qui est magnifique, c'est-à-dire qu'on travaille minutieusement à quelque chose en essayant de faire semblant ensuite que ce soit spontané et que ça ait lieu sous nos yeux pour la première fois. Donc en ce sens-là, oui, bien sûr, il y a du mensonge, mais moi j'adore le mensonge.
Pourquoi, Laurent Godet, à votre avis, l'Europe peine-t-elle tant à créer du désir, à susciter de l'engouement ?
Je pense que c'est parce que à l'origine de la construction européenne, il y a une profonde réticence pour la passion des peuples, parce que et ça peut tout à fait se comprendre, c'était même légitime. On savait très bien où avait mené la passion des peuples. Elle avait mené au grand défilé hitlérien, à cette espèce d'engouement aveugle pour un seul homme, pour la force, pour le pouvoir, pour la concentration des pouvoirs. Donc évidemment, au sortir de tout ça, ça a été l'option inverse qui a été choisie, c'est de dire on va y aller lentement. On va réfléchir, on va être du côté de la concertation, du vote et de l'unanimité à chaque fois, et surtout se tenir éloigné de la rue, en fait, parce que la rue était dangereuse. Donc ça peut se comprendre, mais je pense que on va s'assécher si on reste loin de la rue en permanence.
Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui la nécessité d'une Europe forte, elle est moins motivée par une idée, par un projet, que par la peur face à des pays comme la Russie ou la Chine ?
Je pense qu'elle a toujours été motivée par la peur, et je pense que c'est d'ailleurs le cas de quasiment tous les pays. On se construit dans son identité, malheureusement, si je puis dire, aussi beaucoup en réaction à ce qu'on ne veut pas être, à une agression éventuelle, aux frontières. La question des frontières, ça a toujours été une manière de construire une identité, en fait. Mais je continue à penser, quand même, que au fond, nous Européens, on ne se définit pas uniquement comme ça, et qu'on pourrait faire une belle et longue liste de choses qui nous définissent profondément. Je prends juste un petit exemple avec un pays justement qui est un pays ami, les États-Unis, et dont on pourrait dire au fond, ils sont pas si loin de nous. Sur les billets américains, il y a marqué "In God We Trust". Sur nos billets à nous, il n'y a pas marqué ça, et c'est bien. Et moi, je suis fier qu'il n'y ait pas marqué "In God We Trust". Je ne donne pas de leçons aux Américains, mais c'est pas notre histoire. Notre histoire, elle est plus compliquée vis-à-vis de la religion, vis-à-vis des religions. Et ça, c'est une manière de nous faire aussi peut-être comprendre que, en Europe, il y a la laïcité, il y a la séparation de l'Église et de l'État, il y a la liberté individuelle, il y a le mariage pour tous, il y a le droit de l'avortement, il y a l'abolition de la peine de mort. Ces choses-là, elles nous définissent complices. On les brandit malheureusement pas en permanence, mais au fond, elles créent profondément une identité européenne.
Celle qui traverse toutes les frontières dans cette émission, vous la connaissez, Laurent, c'est évidemment la culture et son actualité. Tête brûlée et casque bleu, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 12 mai ?
C'est amusant de s'approcher de la beauté qui est dans des choses oubliées.
Grande petite Agnès, le Festival de Cannes a annoncé hier que la salle du 60e sur le toit du Riviera face à la mer sera rebaptisée salle Agnès Varda. Une manière pour la manifestation de célébrer à nouveau la cinéaste française après lui avoir attribué une palme d'or d'honneur en 2015 et l'avoir mise en haut de son affiche officielle en 2019. Depuis Cléo de 5 à 7 en 62 jusqu'à Visage Village en 2017, Agnès Varda fut 13 fois retenue en sélection officielle. Elle fut également membre du jury en 2005 et présidente de celui de la Caméra d'Or. En 2013, viva Varda. Pour toi, public, comme le révèlent nos collègues du Parisien, les professionnels du spectacle vivant à l'initiative de la SACEM lancent aujourd'hui une campagne inédite pour inciter le public à revenir dans les festivals, salles de concert, théâtre, cabaret. Car malgré la levée des restrictions sanitaires, tous constatent une baisse de fréquentation durable de leurs événements. Deux tendances inquiètent particulièrement les professionnels depuis la fin de la pandémie. L'augmentation des offres et donc de la concurrence et puis la hausse des prix des tickets. Retrouvons-nous, ont-ils choisi comme slogan. This family. Avatar que jamais, la première bande-annonce du film le plus attendu de la décennie, Avatar 2, La Voix de l'eau de James Cameron a été dévoilée lundi, plus de 10 ans après la sortie du premier volet de la saga. Depuis, il affole complètement les compteurs. La vidéo de 1 minute 37 a déjà été vue près de 14 millions de fois sur YouTube. Annoncé pour le 14 décembre en France, le film se concentrera sur la vie aquatique des Na'vi et réunira au casting Sigourney Weaver, Sam Worthington, Zoe Saldana, mais aussi Kate Winslet et Vin Diesel, parés à plonger.
Compassion pour elle, ça me nuise, en même temps que l'aube mauve s'allonge et accroche ses lueurs aux fenêtres du salon.
Et enfin, la romancière Sophie Debert vient de recevoir le très populaire prix Maison de la Presse 2022 pour son livre Les ailes collées, paru en février dernier aux éditions Lattès. Le jury, présidé par Stéphane Bern, salue une fiction réaliste et poignante qui met en scène l'amitié dévorante entre deux jeunes hommes que tout oppose et que la vie va se charger de rapprocher. Grâce au prix, le roman bénéficiera d'une mise en avant précieuse dans les rayons des 1350 Maisons de la Presse réparties dans toute la France. C'est une chance. L'écrivain, dramaturge Laurent Godet, invité de Boomerang, ce matin, nous l'Europe, banquet des peuples, ce long poème, on l'a compris, où vous revenez à la fois sur quelques grands épisodes de ce qui fait l'Europe. D'ailleurs, c'est intéressant, historiquement, à quel moment naît l'Europe ? C'est jamais très clair.
Non, la question des origines, elle est insoluble. Moi, j'ai décidé de démarrer en 1848, mais ça n'a aucune valeur historique. Les historiens me diraient que c'est n'importe quoi. J'aurais dû commencer à la Grèce antique. Mais ce qui me semblait, c'est qu'il y avait un écho intéressant entre le 19e et sa révolution industrielle et notre époque.
C'est le charbon.
Le charbon. Et je pense qu'on est en train de vivre une situation un peu similaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, avec la révolution numérique, il y a toute une génération qui est projetée dans un temps très lointain. Ceux pour qui l'accès aux ordinateurs, aux tablettes, aux écrans n'est pas évident. Et je pense qu'au moment de la révolution industrielle, il y a eu la même chose, c'est-à-dire tout d'un coup, la population s'est divisée en deux blocs, ceux qui prenaient le train de cette révolution industrielle et ceux qui appartenaient au monde d'avant. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est pas proprement européen, mais ça crée une question qui va filer pendant tout le texte. C'est aussi la question des matières premières, c'est-à-dire que chaque époque est définie aussi par son rapport à une certaine matières premières. Le 19e, c'est le charbon. Et aujourd'hui, on voit à quel point, avec la crise en Ukraine, on entend parler de gaz, par exemple, mais aussi d'énergie propre. Enfin, je pense que voilà, chaque époque peut être définie par ça.
Laurent Godet, un événement comme la chute du mur de Berlin, qui est un moment très fort du spectacle, par exemple, qu'est-ce que ça a produit en vous ? Vous aviez 17 ans.
J'avais 17 ans, j'avais fait des échanges en tant que jeune lycéen en Allemagne, et donc j'étais allé à Berlin en 4e, et donc j'ai vu le mur à l'époque où il était mur, si je puis dire. Donc évidemment, quand il est tombé, ça m'a ému, et surtout je me rends compte aujourd'hui, quand je dis à mes enfants ou à de jeunes gens que j'ai vu le mur de Berlin avec le checkpoint Charlie, que je suis un dinosaure, quoi. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que l'histoire nous traverse et qu'on en fait partie.
Mais à l'époque, ça voulait dire quoi pour vous être européen ?
Je sais pas très bien. Je pense que la conscience européenne, moi, elle est née, elle est plus née avec ma vie professionnelle et amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a eu un fort tropisme vers l'Italie, le fait de développer comme ça une connaissance intime de l'Italie, ça a créé quelque chose d'européen. Et puis aussi le fait de travailler avec la Belgique, c'est pas forcément lointain, mais cette fluidité professionnelle dont je jouis, ça a créé une identité européenne. C'est bien le problème, c'est que je sais que trop de gens ne vivent pas l'Europe, en fait, dans leur quotidien.
Chez vous, ça a quelque chose à voir avec la fraternité aussi, avec l'accueil?
Oui, moi ce que j'aime bien, c'est avec l'ailleurs, mais en même temps tout proche. C'est-à-dire que je fais cette expérience quand on allait à Bruxelles. Pour moi, c'est à la fois être chez soi et être très dépaysé. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est pas très loin de Paris, mais c'est tout à fait autre chose. Si on prend le temps, il faut rentrer dans une autre culture malgré tout, et c'est ce mélange-là que j'aime bien.
Mais honnêtement, ouais. Entre nous, dans quelle mesure l'Europe constitue-t-elle un espace accueillant? Laurent Godet, pour ceux qui n'ont pas d'autre choix, par exemple, que de fuir leur pays.
Bah là, on a une grosse marge de progression, on va dire, énorme. Moi, j'avais écrit il y a quelques années, en étant allé dans la jungle de Calais, un texte qui s'appelait « Sigi la France, Sigi l'Europe ». C'est pour ça que je parlais de mes colères, évidemment, qu'il y en a des colères.
C'était il y a 4 ans.
C'était il y a 4 ans.
Dans une tribune du Monde.
Absolument.
Et vous appeliez à tout faire pour ne pas laisser flotter le pavillon de l'indifférence en Méditerranée. Est-ce que l'indifférence a fini par gagner ?
Sur la question des migrants qui viennent de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, oui, sans aucun doute, bien sûr. Et donc, il faut rester hyper vigilant. Il y a des combats à mener de ce côté-là. Le changement de regard que nous portons sur l'émigration avec les Ukrainiens ne doit pas nous faire oublier qu'il y a fort à parier que vis-à-vis d'autres populations, et notamment, on va le dire, des populations qui viennent de pays musulmans, on sera dans la même frilosité, réticence, et que les questions, on va bientôt les retrouver toutes à l'identique. Donc,
je me souviens, vous écriviez, Laurent Godet, ne laissons pas s'installer en nous la défaite de l'esprit. Comment on fait?
En fait, moi, je pense souvent à un texte d'Aimé Césaire qui est le discours sur le colonialisme, et dans lequel il dit qu'une société, quand elle joue avec ses propres valeurs, elle se met à pourrir. Et je pense que sur la question, par exemple, de la jungle de Calais, c'est un moment où on était pourri de l'intérieur, en fait. C'est-à-dire qu'on n'était pas raccord avec nos valeurs. On peut pas à la fois brandir l'humanisme comme un ADN et ne pas se comporter politiquement comme ça. Alors, je sais bien, je suis pas naïf. Je sais bien que ce sont des sujets extrêmement compliqués, mais il y a franchement, pour revenir sur la jungle, les camps de réfugiés, et Augustin, vous en connaissez aussi, que j'ai pu voir par exemple au Kurdistan irakien, étaient tout simplement mieux organisés, plus humains, que ce qui existait au moment de la jungle de Calais. Donc c'est ça qui est inacceptable. C'est pas de ne pas avoir su régler ce problème qui est compliqué, c'est juste une question d'accueil. Il y avait rien, c'était monstrueux. Et d'autres pays ailleurs avec moins d'argent faisaient mieux. Donc c'est ça, la colère, elle naissait de là, beaucoup.
Je pense à une de vos expressions, ça a été même le titre d'un de vos livres, « Écoutez nos défaites ». Pourquoi faut-il les écouter, nos défaites passées, Laurent Godet?
Bah parce que je crois qu'il y a une vérité du côté de la défaite. Alors là, je vais plomber l'ambiance si tôt le matin comme ça, mais oui, je crois que il faut pas toujours être dans la volonté de victoire, de réussite, comme ça, un peu bravache, bomber le torse, c'est mignon 5 minutes, mais au fond, on sait qu'on a tous rendez-vous avec des défaites, et que peut-être que il y a une certaine forme de sagesse à les accepter, c'est pas facile, mais simplement les regarder en face.
Alors sur quelle défaite est-ce que l'Europe s'est construite ?
Ah bah sur la plus grande d'entre toutes, sur l'abîme absolu, je pense, sur la Shoah.
Une Europe victorieuse, ça ressemblerait à quoi? Ça passerait par quoi aujourd'hui pour vous?
Une Europe, je pense, libre. Et du partage, du grand nombre, en fait. Je pense que pendant longtemps, l'enjeu, ça a été la paix. Et maintenant, il faut que ça soit le partage. Il faut étendre ce sentiment d'appartenance, et on ne le fera que en prenant soin des nôtres, si je puis dire.
Vous y croyez ?
Oui, j'y crois. Oui, j'y crois.
Alors, on va y croire à cette Europe ce matin. Et si elle reste à être réinventée, on peut d'ores et déjà se charger de choisir un nouvel hymne. C'est d'ailleurs l'une des entreprises de la pièce. Alors nous, on a choisi notre hymne, chanté par quelqu'un qui nous a quittés récemment, accompagné ici par Sofiane Pamart au piano. Arnaud, putain, nous sommes tous des Européens. Vous êtes sur France Inter avec Laurent Godet. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Je ne suis pas un nationaliste. J'ai pas les cuisses de ces cyclistes. J'ai trop froid pour être unitiste. Allez, allez, circulez avec mon cul de vieux pépé. J'aime les femmes et j'aime les autres. Et comme j'ai déjà dit, vive les petits zézés. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Oh. Un court deck, un stucto, le zestecken, un long meden, un doux. Deux fois ben, quatre ne clés, tu m'en cheats, valeur! Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Wow. And the poor may be poor. They all have two holes in their nose. Bye-bye Brexit. Bye-bye Brexit. We're still gonna eat fish and chips. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Yo. Ta 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 ta.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Alors ce qui frappe chez lui, c'est son visage. Hein. Un visage rond et lumineux comme un soleil, le cheveu blanc d'une densité absolument folle, l'œil attentif, le sourire à la fois discret et sérieux d'un ancien enfant de cœur, tout en bleu marine ce matin. L'écrivain Laurent Godet, invité de Boomerang pour la mise en scène par Roland Auzet, de ce poème « Nous l'Europe, banquet des peuples » où une grande assemblée de corps et de voix de nationalités différentes circule, échange, retrace l'histoire de l'Europe sous forme d'épopée. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça permet, l'épopée, Laurent Godet?
Ça permet la célébration et l'anathème. Et c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que le poème a le droit d'être lyrique, il a le droit d'être en colère, il a le droit de s'emporter, d'avoir du souffle, de
il
cracher.
Peut dire cracher sur son nom.
Exactement. Ce qu'un article de journal ou un livre plus universitaire ne pourrait pas faire. Et moi, j'avais envie de tirer ce sujet européen sur mon territoire d'écriture.
Alors c'est aussi une langue épique, l'épopée. Ça passe par quoi pour vous, cette langue-là ?
Ben c'est la recherche du récit qui a du muscle. Moi, c'est comme ça que je le définis. Et c'est au fond pour ça que j'aime le théâtre depuis le tout début. J'ai commencé comme ça, c'est parce que ce sont des mots posé sur une page en attente du muscle de quelqu'un, de sa voix, de son grain de voix, de son corps, de sa sueur, de son effort. Et c'est cette attente-là que je trouve magnifique. C'est-à-dire qu'un texte destiné à la scène, il est pas terminé tant qu'il n'est pas proféré. Oui. Moi, tout ce que j'écris, c'est fait pour être dit à voix haute.
Mais alors, qu'est-ce qui fait la puissance d'une langue? Sa réalisation, son actualisation, si je vous entends bien?
Je pense que c'est sa capacité d'avoir prévu l'accueil. L'accueil de celui qui va lire, l'accueil de celui qui va lire à voix haute s'il s'en empare, c'est d'avoir pensé ça. Moi, j'aime cette idée.
Alors justement, comment ça s'incarne, comment ça s'interprète, la langue épique, Laurent Godet, comment ça se joue?
C'est une question de syntaxe, vraiment. Il faut se couler dans la syntaxe, il faut accepter le rythme qui parfois dans la pièce, par exemple, est staccato sur les machines, sur la révolution industrielle, et puis parfois est plus longue. Je pense que c'est vraiment une question de point, de virgule, de pause. C'est ce que d'ailleurs les comédiens apprennent dans leurs écoles, et c'est magnifique. C'est que chaque auteur a une langue et qu'il faut plonger dedans pour la comprendre.
Vous diriez que la vôtre, c'est un rugissement, c'est un cri ?
Moi, j'ai un drôle de mélange, je crois, entre un souffle court, nerveux, et puis le désir que ça soit un peu plus long sur le parce que c'est une épopée.
Alors c'est d'autant plus intéressant qu'il y a plusieurs langues. Le texte ne se dit pas seulement en français. Certains passages sont prononcés ou traduits simultanément dans d'autres langues. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ce dialogue entre les langues, justement?
Ça, c'est vraiment Roland qui a eu cette intuition. Il a dit on peut pas faire un spectacle européen si on n'est pas de plusieurs nationalités sur le plateau et si on n'entend pas la diversité des langues européennes. Et il avait raison. Donc après, moi, je suis assez frappé de voir que ça pose de moins en moins de problèmes. C'est-à-dire, je pense très sincèrement qu'il y a 10-15 ans, un spectacle comme ça, on nous aurait tout de suite dit dans les différents lieux d'accueil, oh là là, mais attendez, tout est surtitré, non, il y a une petite phrase qui ne l'est pas. Attends. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le public théâtral, il accepte ça. On comprend pas tout, mais en même temps, on a une certaine familiarité, on s'est habitué à ces langues-là.
Faut-il tout comprendre ?
Non, pas nécessairement. Il y a un long passage qui est dit par Dagmara, qui est la comédienne polonaise. Moi, plus je le réécoute, plus je me laisse porter uniquement par son énergie à elle, qui est dans une tension à ce moment-là folle parce qu'elle raconte la Shoah. Et je trouve ce passage magnifique. Voilà.
D'ailleurs, il n'y a pas que la langue qui crée de l'altérité. Il y a aussi effectivement les corps dans cette pièce, qui sont très nombreux sur scène. Je me suis demandé pour vous, qu'est-ce que c'est un corps ?
C'est une débauche d'énergie possible. Moi, j'aime ça. J'aime la sueur. J'aime la torsion. J'aime. Pour moi, les corps, c'est ceux de Michel-Ange ou de Claudel. C'est des corps tordus. C'est des corps en souffrance. C'est des corps en tension. C'est ça que j'aime.
Donc, c'est de la vie. En fait, c'est de la vie d'abord. Hein.
C'est de la vie avec. Oui, c'est de la vie, mais pas de la vie normale. Pas la vie comme je suis là, c'est-à-dire assis sur ma chaise. Non, c'est quelque chose de plus tendu. Je pense. Puisqu'on parle de théâtre, je pense à Patrice Chéreau, à la manière dont il avait les corps chez Chéreau, c'était quelque chose, quoi. On était toujours dans une tension assez forte. Une arrivée sur le plateau, c'est important, ça ne se fait pas comme on entre dans un café.
Alors comment on fait pour les tendre, les mots, Laurent Godet ?
Il faut comprendre où ils vont. Je pense que c'est une question de direction. C'est Nordet qui dit ça. Stanislas Nordet, il parle souvent d'une flèche. Il faut d'avoir identifié la cible et ensuite être tout entier dans cette direction-là. Voilà.
Quelle est votre cible ?
L'émotion, je crois.
Pour terminer cette émission, vous nous avez écrit un texte. Et j'aimerais bien que vous nous le lisiez.
Allez. Vous vous souvenez de ce qu'on disait ? Pendant ces longs mois d'attente et d'immobilité, lorsqu'on était confiné dans des appartements trop petits, vous vous souvenez ? Quand on ne pouvait pas s'éloigner de plus d'un kilomètre de chez soi, quand les jours étaient longs, qu'on passait son temps à faire la cuisine et les devoirs avec les enfants, quand on espérait l'arrivée des premiers masques, puis des premières doses de vaccins, on y pensait souvent au monde d'après. On se disait que tout serait différent, qu'on saurait profiter de chaque instant. Moi, j'aurais bien aimé les années folles. Voir la jeunesse s'emparer de nos villes, sortir, boire, trinquer à la vie retrouvée, ouvrir une grande période de surchauffe, d'appétit, d'intensité artistique, d'impatience dans les désirs humains. Ah oui, être libre longtemps, au nom de tous ces jours qu'on nous avait volés. Les années folles, ça aurait été bien, non ? Mais il n'y a pas eu de fin nette, pas de victoire éclatante sur le virus qui nous aurait permis de sortir dans les rues en hurlant de joie, ça traîne, ça rebondit, on y est encore, série de recontaminations, vagues successives à n'en plus finir. Alors oui, la vie a repris, mais du coup, on a oublié la fête. Et on a eu quoi à la place ? La guerre en Ukraine ? La crainte, à nouveau ? Est-ce qu'on ne peut pas dire non, là, comme ça ? Décider de laisser derrière nous la fatigue. Pourquoi on ne pourrait pas, là, maintenant, vous, moi, chacun, vivre pleinement et retrouver le goût de l'intensité ? Allez, quoi ! La jeunesse attend, elle a hâte. Elle n'en peut plus de cette vie d'ennui, papa, maman, le Covid et l'écran. Fais pas ci, fais pas ça et mouche-toi dans ton bras. Elle a envie d'apprendre, à chanter, à danser, à faire des rêves. Moi, j'en ai plein la tête des rêves, à grande brassée. La vie est courte, quoi. Allez,
Faut de l'ivresse, de la légèreté. Allez, il est 9h35, c'est le moment, non? On va boire un café, respirer grand et en finir avec tout ce qui nous a fait vieillir prématurément. Le monde d'après, il est là. Regardez, il est temps d'être résolument joyeux et insouciant. Ce sera beau. Cela fait si longtemps.
Vous savez, Laurent Godet, un jour, j'ai demandé à Michel Houellebecq d'écrire une lettre. C'était pendant le premier confinement. Et il m'avait parlé du monde d'après. Et il m'avait dit, le monde d'après, ce sera le même en un peu pire. Vous n'avez pas le même point de vue?
Ben moi, j'ai toujours... Je veux toujours croire à l'énergie de la vie. Donc, allez, on va y aller. On va aller boire un coup.
Dites-moi, la fête, l'intensité, la vie, dans quelle mesure ça se réalise dans cette autre vie qu'est le théâtre ou la poésie?
Je crois que c'est justement le lieu où ça se réalise. Pour des gens comme moi qui... c'est le lieu de l'intensité, moi c'est ce que je cherche. C'est pour ça qu'on en revient au joli mensonge du théâtre. C'est le lieu où on crée les conditions de l'intensité. Et c'est pour ça que je peux pas m'en passer, moi.
Et comment faire pour qu'elle soit partagée par tous et par toutes, cette intensité?
Je crois que quand les comédiens sont sur le plateau et qui donnent, le partage est tout à fait possible. La grande difficulté, c'est de faire venir les gens dans les salles. On en reparlait tout à l'heure avec votre journal. C'est ça le combat à la fois social d'un partage de la culture. Mais une fois que le spectacle commence, je suis assez serein. L'intensité, on la ressent assez vite, quoi. C'est une invention merveilleuse, le théâtre.
Merci infiniment, Laurent.
Merci, Augustin.
D'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre poème, Nous l'Europe, banquet des peuples, mise en scène et en musique par Roland Osé, se joue jusqu'au 29 mai au théâtre de l'Atelier. Et tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça. Power, Cat Power, il est 9h40 sur France Inter et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, l'Instant M. Est-ce que ça va, Sonia?
Eh ben ça va très bien. On se retrouve demain, Augustin.
Évidemment.
Salut.